Scarp Ciné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarp Sensé, ça tourne.
Et action! Bonjour, c'est votre rendez-vous ciné-série dans les Hauts-de-France, Scarp Ciné. Depuis 3 ans, une série tournée en région affole les spectateurs, son nom HPI. Dès le 11 mai à 21h15, retrouvez la saison 3 des aventures de Morgan Alvaro. En visio, je rencontre le producteur de la série, Pierre Laugier, sur Radio Scarp Sensé.
Sur le cinéma Hauts-de-France.
Nous sommes dans Scarp Ciné avec Pierre Laugier, producteur de chez Itinéraire Productions. Bonjour.
Bonjour, Joris.
Merci d'accepter cette interview pour le retour de la 3e saison de HPI sur TF1 le 11 mai à 21h15. Morgan Alvaro, la plus célèbre des détectives, reprend du service. Pierre Laugier, je vous ai interviewé il y a tout juste un an pour parler de la saison 2 de HPI au potentiel intellectuel. Succès à nouveau confirmé pour la série policière tournée dans les Hauts-de-France avec plus de 9 millions de téléspectateurs au cours de cette dernière saison. Comment vous avez rebondi pour la saison 3 ?
Bah, on a gardé le principe de cette série qui est de toujours surprendre le téléspectateur et de l'emmener... de rester à la fois dans les codes du genre policier, de rester avec notre personnage, mais de jouer avec les codes de la série policière et de tromper les attentes qu'on peut avoir par rapport à certaines intrigues. Ce qu'on a constaté avec grand plaisir sur la saison 2, c'est que la série, elle était devenue vraiment populaire dans toutes les catégories de la société et dans tous les âges, notamment sur les 15-35, qui est une cible très prisée des diffuseurs historiques. On a constaté que la part de marché avait fortement augmenté par rapport à la saison 1. Et même en parlant autour de nous, en regardant sur les réseaux sociaux, on a pu voir qu'il y avait des adolescents qui regardaient, il y a des personnes âgées, il y a des mères de famille, il y a même des familles tout entières qui se retrouvent sur le canapé pour regarder la série ensemble. Pour nous, c'était une vraie satisfaction, un vrai bonheur, parce que c'est une série qui fait que les gens se retrouvent. Et donc, on a essayé de garder cette dimension très fédératrice en racontant la vie de Morgan, bien sûr, mais aussi la vie de sa famille, la vie de ses collègues, et en développant des intrigues sur les autres personnages. Je pense notamment à la commissaire interprétée par Marie Denarno, ou alors à Daphné, qui est l'une des policières interprétée par Bérangère Macnil. L'idée étant que tout le monde ait envie de suivre cette série pour tous les personnages, bien sûr pour Morgan, bien sûr pour ses proches, mais aussi pour les policiers de la DIPJ.
On retrouve évidemment Audrey Fleurot en Morgan Alvaro, on retrouve Mehdi Nebbou en Adam Karadec, on retrouve Bruno Sanchez, en effet, vous le dites, Rufus, et les jeunes acteurs, dont Noé Van de Voorde, un acteur d'ailleurs de Villeneuve d'Ascq. Justement, à côté de Villeneuve d'Ascq, il y a Lille, et c'est donc dans cette ville, la capitale des Flandres, qui a été projetée aussi en avant-première à HPI. Ce que j'ai trouvé marrant, et en même temps, ça montre le succès de la série, c'est que il y avait des spectateurs qui étaient habillés en cosplay comme Morgan Alvaro. Donc, on peut dire que ce personnage, il est bien plus rentré dans le cœur. Maintenant, les gens s'habillent comme Morgan Alvaro. Ça fait quoi en tant que producteur d'avoir créer un personnage comme ça et que les spectateurs maintenant s'habillent comme Morgan Alvaro.
Ah bah c'est génial, c'est vrai que Morgan est devenu une icône de la culture populaire maintenant. On peut voir sur internet beaucoup de fanfics, de effectivement il y a des gens qui font du cosplay, il y a des gens qui font des bandes dessinées, qui font des dessins, qui font des stories. On a pu voir sur TikTok des labiales aussi avec des fans qui refaisaient entièrement des séquences en playback. Donc quand le public commence à s'emparer d'une héroïne et à même la faire vivre, évidemment c'est une immense satisfaction. Et au-delà de ça, je pense que Morgane est un personnage qui est très inspirant pour le grand public parce que elle partage avec le plus grand nombre des préoccupations du quotidien et qu'elle les sublime par son intelligence et par sa fantaisie. Elle a cette dimension de super héroïne du quotidien avec laquelle on continue de jouer. Je pense notamment dans le premier épisode, il y a un moment où elle a sa blouse de femme de ménage et comme elle a les boutons ouverts, on a l'impression que c'est presque une cape de super héros. C'est très marrant de voir aussi dans l'île au moment de Cérimania plein de jeunes femmes déguisées en Morgan. Alors c'était une opération de communication, mais on a aussi des vraies femmes qui sont devenues des amis maintenant, qui viennent à toutes les projections et qui sont là pour faire vivre cette communauté de fans.
Vraiment que vous arriviez à garder un travail. Vous avez d'autres compétences qui ne sont pas inscrites dans votre dossier.
Je vais faire du patin en arrière. Et puis sinon, je suis HPI.
Accrochez-vous, on part en filoche.
Brigadier Guichard, notre nouvelle recrue.
Ça ne marche pas du tout, la pâte à fixe.
Si vous voulez faire des enquêtes, il fallait rester chez les flics, non?
J'ai trouvé ça dans mon bureau, c'est à vous?
Non.
Non, non.
Qui est à l'appareil?
Il vous a menti.
Mais c'est mon corbeau, il est hyper collant, j'arrive pas à m'en débarrasser.
Passe mon téléphone. Il va falloir me laisser bosser là, ok? C'est clair?
Morgane ne dit jamais merci.
Vous vous bougez un peu, je n'ai pas l'impression que vous soyez au taquet.
Elle a un talent inné pour foutre tous les gens qui l'entourent dans la merde.
Vous avez volé un bijou à Casmélon chez la victime?
Mais non! Non et non!
Qui dans cette pièce est encore prêt à se mouiller pour l'aider?
En effet, elle est inspirante pour ça, parce que finalement, c'est une anti-héroïne. On l'a découverte femme de ménage, et d'ailleurs, petit parallèle avec la saison 3. Les premières images sont diffusées d'ailleurs sur le site de TF1, donc on peut un peu en parler. C'est qu'elle redevient femme de ménage dans les premières images de la saison 3. Donc c'est un hommage à ses premières apparitions.
Oui, et c'est Morgane, le personnage de Morgane dans sa situation initiale, c'est quelqu'un qui est effectivement très intelligent, trop intelligent peut-être, très sensible, révolté par essence et qui ne trouve pas sa place dans le monde normal et qui n'a pas les codes de la société policée, qu'elle veut dire. Donc on a besoin de retrouver ce personnage-là pour comprendre le trajet qu'elle fait dans la série, qui est de trouver sa place finalement et de trouver une forme d'harmonie avec elle-même et avec les autres. On avait besoin, à la suite de cette grande déception sentimentale, de la voir replonger d'une certaine manière, parce que les personnages de série sont intéressants quand le plus grand conflit qu'ils vivent, il est à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'elle est son pire ennemi, et elle a ses propres démons à combattre avant de vaincre l'adversité des enquêtes policières ou de ses intrigues sentimentales. Donc pour nous, c'était important de rappeler la condition de base de Morgane, hein, qui est une femme, effectivement, qui est une mère célibataire, qui a 3 enfants, qui a des difficultés à joindre les deux bouts, qui peut être un peu frivole aussi parfois, ce qui explique qu'elle se met en difficulté. C'est très important de garder ce principe dans la série parce que ça fait partie du personnage.
On découvre finalement autrement Morgan Alvaro puisque son haut potentiel intellectuel sert les enquêtes, mais aussi, comme vous le dites, ça la dessert parce que c'est un peu un démon en elle. Et quand il y a en effet dans la saison 2, fin de saison 2, ce baiser entre Karadec et Alvaro, elle va se sentir un peu totalement perdue. Et donc, ça va se retourner contre elle, on a l'impression.
Oui, bien sûr. Alors là, on est dans la transgression maximum hein, d'une série type Clair de Lune. C'est le moment où les héros se rapprochent dangereusement et où, naturellement, ils ont envie de s'éloigner aussitôt après parce que ils ont fait quelque chose de fondamentalement interdit. Donc là, on a poussé les interdits au plus loin dans la fin de la saison 2, puisque Karadec, à ce moment-là, son cœur est pris, il est avec Roxane, Roxane est à l'hôpital. Donc pour lui, évidemment, c'est quelque chose de terrible d'avoir osé embrasser une autre femme alors que la femme qu'il aime est en péril. Et d'autre part, je pense que Morgane, dans le début de la saison 3, enfin, on va découvrir ce qui s'est passé après ce baiser. Enfin, on va pas le découvrir tout de suite, mais on va voir que elle a été très déçue par Karadec au fond. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du pli amoureux. Et nous, ce qu'on voulait explorer dans cette saison 3, c'était la vie sentimentale de Morgane, son rapport avec les hommes, son rapport avec Dolik, son ex-mari, mais aussi avec d'autres hommes, et évidemment avec Karadec qui va revenir sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, il y a une très jolie scène qui est d'ailleurs sur le site hein, aussi, quand elle est chez Pôle emploi avec sa conseillère qui lui dit « Mais alors, qu'est-ce que vous savez faire ? Vous vous êtes encore fait virer ? Et puis ce travail dans la police, alors pourquoi vous êtes parti brutalement ? Ça avait l'air de vous plaire. » Elle dit « Oui, bah, ça me plaisait. » Puis elle ne dévoile pas les vraies raisons pour lesquelles elle est partie. Elle dit « Le salaire était pourri. » On sait très bien que les raisons de son départ sont plus profondes.
Bien sûr.
Karadec, c'est le catalyseur en fait de son intelligence et c'est peut-être la solution à tous ces problèmes, mais aussi longtemps que durera la série, ce sera un problème de plus pour Morgane.
Justement, à Série Mania, Mehdi Nebout disait dans une interview que c'est la force aussi des scénaristes, et ils sont quatre dans cette série, c'est que quand les personnages se rapprochent trop, les scénaristes vont tout de suite les éloigner. Enfin, c'est un jeu d'aller-retour et c'est ça que Mehdi Nebout adore aussi, c'est que finalement, il y a une vraie tension entre les deux et c'est grâce notamment au travail des scénaristes qui vont sans cesse jouer sur le couple, jouer sur les amitiés, les amours et aussi la relation avec le travail parce que voilà, on le voit dans la saison 3 qu'il y a un manque. Il y a un manque cruel, évidemment. Elle résout beaucoup les enquêtes par sa perception. Et du coup, même s'il y a un remplaçant, mais voilà, ça va être... Et là aussi, c'est un nouveau personnage, on pourra en parler. Donc c'est ça aussi, c'est un travail aussi sur le scénario, sur la relation aussi avec les personnages.
Oui, les scénaristes font un travail remarquable depuis la première saison. Et ont vraiment poussé très loin les curseurs. Il y a une grâce dans l'écriture de cette saison 3 qui nous approche des grandes comédies romantiques à l'anglaise. Je pense à Richard Curtis ou à l'américaine. On peut les citer d'ailleurs, hein, Alice Chigaré-Brogno et Julien Scuter qui dirigent l'écriture, qui sont aussi directeurs artistiques sur la saison 3. On peut citer les autres, Bérénice Bouquillon, Thomas Colino, Héloïse Tibézalini, David Robert. Également Léonore Varonne et Louise Collard. On a une magnifique équipe d'auteurs qui a œuvré sur cette saison 3. Et effectivement, ils arrivent à mêler à la fois des enquêtes très complexes qui font intervenir le cerveau d'une femme HPI, qui a un QI de 160, donc c'est quand même des affaires particulièrement difficiles à résoudre, et cette ronde, cette valse de sentiments entre Morgane et Karadec, tout en renouvelant les situations. C'est-à-dire que la saison 1, on voyait Karadec tomber amoureux de Morgane et puis être dépité. Là, dans la saison 2, on a vu Morgane tomber amoureuse de Karadec. C'était très chouette de la voir s'en rendre compte à travers une démonstration à la Morgane avec une série de flashs. En fait, elle analysait la situation, elle devait se rendre à l'évidence qu'elle était amoureuse de Karadec. Et dans cette saison 3, on va voir comment à nouveau ils vont se rapprocher. Je salue le final de cette saison 3 qui a été imaginé par Alice et Julien et qui devrait là encore surprendre pas mal de monde.
Pierre Laugier, producteur chez Itinéraire Productions, est avec nous sur Radio Scarpe Sensé. On continue de parler de la saison 3 de HPI après la musique du rappeur 50 Cent in the Club. Go, 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 go,
it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're getting to getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you're getting to getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas to tell you I'm loco. When you playing is to put the rap game in the choke. I'm full of focus, man, my money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still in the grind. Now shorty say she feelin' my style, she feelin' my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. Okay. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head, sip you in to take a drug. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head, sip you in to take a drug. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My junk get the pumping in the club, it's on. I'm with my eye at your bitch, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. They're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. The niggas hate to let them hate them, watch the money pile up. And we can go upside the head with a bottle of bull. Then the way we fucking be. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head, sick of in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the head, sick of in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, nigga. Club all the time, nigga. It's a problem, pop up, nigga. G-Unit.
Grand écran sur vos séries dans le magazine cinéma.
Le rappeur américain 50 Cent in the club. Cette musique est à retrouver dans les premières minutes de la saison 3 de HPI, diffusée dès le 11 mai à 21h15 sur TF1. Une série tournée et produite en région Hauts-de-France avec Pictin Nouveau. Pour en parler en visio, je reçois Pierre Logier de chez Itinéraire Productions. La série démarre le 11 mai à 21h15 et ça nous emmène jusqu'au 29 juin parce qu'on prolonge véritablement avec des épisodes des précédentes séries. Alors on va revenir à la saison 3 et au Arenberg Creative Mine dans le cadre du festival Série Mania. C'était un événement attendu hein, d'ailleurs la présentation de HPI. Vous avez présenté en avant-première les deux premiers épisodes de la saison 3 aussi à Lille. J'ai pu les voir en votre présence d'ailleurs. Avec un début tonitruant hein, où la famille Alvaro est en mode gangster rap dans une villa de la métropole lilloise. Et ensuite, on découvre la suite des aventures, je dirais avec un ton nouveau. C'est toujours aussi drôle, c'est bien réalisé. Voilà, avec vraiment le souci toujours du détail. C'est intéressant dans cette série parce que maintenant, avec la saison 3, on commence à connaître et on essaie de regarder vraiment les petits indices. Et d'ailleurs, voilà, c'est une saison qui s'annonce encore plus mystérieuse et qui nous envoie plus encore sur des fausses pistes. Et puis aussi, on en parlait, c'est aussi beaucoup plus de sensibilité aussi chez Morgan Alvaro. On le sent hein, dans les deux premiers épisodes. Voilà, il y a de l'humour, mais pas que.
Ah oui, il y a de l'émotion, toujours. C'est très important de garder cette émotion sur Morgan et même sur les enquêtes policières. Hein. Les, les enquêtes sont complexes, mais il y a toujours un drame humain derrière les meurtres sur lesquels on fait nos personnages, et toujours dans la résolution des thématiques qui vont entrer en résonance avec ce que traverse Morgane. C'est là encore, hein, l'excellence de l'écriture qui nous permet d'avoir, je pense notamment à l'épisode 3, que vous découvrirez dans 4 semaines, il y a une très très jolie enquête qui se passe dans l'univers du rap féminin, avec des aveux qui sont bouleversants et qui sont reçus par Morgane, et où on sent là qu'il y a sa problématique à elle qui est présente. Donc on garde l'émotion. L'idée étant, dans ce mélange entre enquête policière, comédie familiale, sentimentale et drame, de trouver le bon équilibre et de faire que un genre ne prenne pas le pas sur l'autre. Donc ça, c'est au fil des saisons et des épisodes que les auteurs ont ajusté le tir pour qu'on ait à la fois de la comédie, du rire, mais aussi parfois des larmes, et puis des moments très addictifs aussi. Hein. On a des incursions dans le genre aussi, parfois de HP. Et donc voilà, donc oui, c'est intéressant de jouer avec toute cette gamme d'émotions.
Et ce que j'adore aussi dans la série, c'est que vous nous emmenez dans des univers. Et en effet, ici, on va découvrir une enquête sur la mort d'une jeune star de la musique. On va aller en prison, on va aller dans un ashram. On va aussi même aller à la fac de médecine où il y a une histoire de vampire. Enfin voilà, c'est des épisodes où il y a cette question de société, oui, mais voilà, vous essayez aussi de partir dans des univers vraiment différents.
Oui, et ça, c'est ce qui est chouette quand on commence à avoir plusieurs saisons à son actif, c'est qu'on a un socle, on a des fondamentaux qui sont nos personnages et qui sont toute cette gamme d'émotions dont je vous parlais. Et à partir de là, on peut aller dans des univers un peu différents, un peu surprenants, et même dans des genres, vous allez voir, enfin là, je ne peux pas trop spoiler, mais l'épisode 8 est très surprenant par rapport à l'histoire qu'il raconte et la façon dont elle est racontée. L'épisode 6, en effet, nous emmène aux frontières du fantastique avec l'histoire d'un vampire dans une fac de médecine. Ça fait partie des codes hein, des séries policières. On n'est pas les premiers à le faire et c'est plutôt rigolo à faire. À chaque fois, les auteurs testent et on se dit, tiens, ouais, ça peut marcher. Et puis quand on voit les épisodes apparaître et les scénarios évoluer, on se rend compte que ça marche parce que on a nos fondamentaux qui sont suffisamment solides en amont pour le faire. On continuera à le faire évidemment si Dieu nous prédit, mais c'est ce qui permet aussi aux auteurs de se renouveler et puis même aux comédiens de s'amuser, puisque cette série elle se fait dans le plaisir et dans l'émulation. On a toujours un haut niveau d'exigence quand on relance une nouvelle saison, et on est très content quand Mehdi, par exemple, souligne la qualité de l'écriture, quand les auteurs découvrent les épisodes parce que le réalisateur a fait un super boulot. Il y a cette énergie collective qui permet de prendre du plaisir à faire la série. Et on espère, on pense que ce plaisir-là, il est communicatif.
Qu'est-ce que vous faites, là?
Et elle lui grave sur les livres. Du coup, je dégraisse.
C'est vous?
Ouais, c'est moi, c'est Morgane.
C'est vous qui mettez tout en désordre, là. Les livres, là, tout dérangé.
Non, attendez, sérieusement, vous croyez vraiment que j'ai que ça à foutre de changer l'ordre des bouquins avec tout le merdier que vous laissez derrière vous?
Et le tapis et les coussins, c'est vous qui les bougez aussi, hein?
Ouh, attendez, là, qu'est-ce qui se passe, là, tout doux bijou? J'ai rien bougé du tout, moi.
Hein. Arrêtez de mentir, hein, parce que si c'est pas vous, c'est qui?
Moi, je mens. Pardon, moi, je mens? Eh, il s'agirait d'arrêter un peu la picole, là, hein?
Pardon?
Ouais, tu m'as très bien entendu, sous Hélène, alors fais pas genre, ok? Parce que s'il y a une grosse mytho dans cette pièce, c'est pas de ce côté-ci qu'il faut chercher, ok?
Qu'est-ce que vous insinuez, là?
Ah, j'insinue rien. Non? Les bouteilles, là, dans votre placard, qui disparaissent tous les jeudis, le soir, votre mari part au squash, et que, bizarrement, je retrouve jamais dans la poubelle de verre? On en parle ou bien? Eh ben non, parce que vous allez les mettre dans la poubelle de la voisine. Haha, finaude. On peut rien cacher à sa femme de ménage.
Et vous n'oubliez pas Lille et les Hauts-de-France, c'est un vrai terrain de jeu pour la série. Voilà, cette série, elle est ancrée dans la région. Où vous avez tourné cette saison? Dans quelle ville? Dans quel coin de la région?
On reste un peu sur les fondamentaux. On a commencé à... On est toujours à Lille, où il y a notre camp de base, la DIPJ, Trévise, sud, et puis on est toujours rue de Los, dans la maison de Morgan. On a un épisode qui se passe à Bondu. On est allé à Compiègne, en Picardie, pour la prison. On est allé à Roubaix également. On continue d'explorer les forêts. Alors, on n'est pas allé à la plage cette année, mais on y retournera peut-être l'année prochaine. On était allé en saison 1, on était allé à Malo-les-Bains. Mmh. Et en saison 2, sur la côte d'Opale, à Vimereux. Et on va certainement continuer d'explorer les plages du Nord par la suite. Là, c'est une saison où on était à Ronchin aussi pour l'épisode dans le monde du rap. On est plus, un peu plus urbain. On est allé à la piscine de Béthune dans l'épisode 5. Voilà, donc c'est toujours très, très chouette de se balader dans la région, de rencontrer du coup le public nordiste. Et puis on a toujours notre équipe. Hein, c'est une équipe qui est extrêmement pérenne, hein, puisqu'on a tous les techniciens, 80% des techniciens nordistes, qui pour la plupart étaient là depuis la saison 1. Et là encore, la vertu de ce genre de série, c'est que ça nous permet de faire monter en compétences certains techniciens qui sont devenus chefs de poste et qui avaient commencé assistants sur la saison 1. Donc elle est plus que jamais inscrite dans la région. Le festival de Série Mania nous permet chaque année de renforcer ce lien avec le public et avec les collectivités. Et je pense que c'est une très belle tribune aussi pour la région que d'avoir cette série, qui est un immense succès en France, mais qui est aussi un immense succès à l'étranger. Puisque je le rappelle, hein, la série est vendue dans 110 pays, est un succès confirmé dans tous les pays dans lesquels elle a été achetée. Et on a même un remake américain qui est en cours de production pour la chaîne ABC.
Et c'est vrai que vous êtes en plein rush aussi, puisque le festival Série Mania, c'était en mars, et les derniers épisodes étaient en train de terminer, d'être tournés en mars pour une diffusion là dans quelques semaines. Donc c'est vraiment le rush, il y a un rendement aussi dans le tournage, quoi.
Oui, le planning est toujours très très serré. On a ce créneau de diffusion donc au printemps, qui est vraiment une très belle exposition aussi, juste après les vacances de Pâques. On commence généralement le tournage en septembre. On a eu la chance cette année de pouvoir commencer un peu plus tôt en juillet. Mais effectivement, de septembre à février-mars, c'est une cadence très, 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 très serrée pour pouvoir faire ces 8 épisodes. Et à l'heure où je vous parle, il y a encore nos équipes de post-production qui sont en train de finaliser les derniers épisodes, dont les montages images sont maintenant loqués, mais on continue de travailler jusqu'au bout. Hein. C'est au cul du camion, comme on dit vulgairement, que se fabriquent tous ces épisodes, et il faut garder cette exigence, cette qualité. Donc on a là encore des équipes qui sont très bien rodées et habituées à ce flux, et on espère pouvoir continuer à tenir ce rythme, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir apporter 8 épisodes chaque année.
Une anecdote aussi qui n'est pas facile, hein, quand on tourne, ça je sais pour avoir vu des tournages, vous avez tourné les premiers épisodes en pleine canicule.
Oui, alors la canicule dans le Nord est beaucoup plus supportable que dans d'autres pays, que dans d'autres contrées, on ne peut pas le nier, mais c'est vrai que toute la partie prison à Compiègne, on l'a tournée dans la deuxième quinzaine de juillet, à un moment où il faisait extrêmement chaud. Et donc, toutes les séquences dans la cour de la prison étaient assez dures pour les équipes. On a eu la chance de pouvoir tourner dans une cellule où il faisait beaucoup plus frais. Mais ça fait partie des contraintes. Alors, quand il fait trop chaud, je pense que Audrey et les comédiens et les techniciens ont plus souffert du froid que du chaud néanmoins sur cette saison 3 comme sur toutes les autres.
En quelques chiffres, ça représente quoi la saison 3 de la série HPI ? Il y a combien d'épisodes ? Combien de personnes travaillent autour de la série HPI ? et voilà. Et vers quelle audience vous souhaitez aller?
Alors, j'ai plein de chiffres. C'est 88 jours de tournage, 634 salariés de la région Hauts-de-France, 793 en tout, c'est 13 auteurs, 17 rôles récurrents, 76 rôles secondaires, c'est 473 silhouettes et figurants, une vingtaine de sociétés prestataires de la région qui travaillent à l'élaboration de la saison 3. J'ajoute qu'on a reçu à l'issue de la saison 3 la labellisation de production responsable qui a été validée, donc c'est des accords qui ont été passés dans le cadre de la COP21 avec 20 critères hein, qui valident une production éco-responsable. 46% de femmes au sein de l'équipe technique, donc on est quasiment paritaire. On a embauché 16 stagiaires, on a un système de tri de déchets avec 9 flux, 41% de déchets recyclés, 54% de matériel basse consommation. Ouais, je pourrais vous dérouler encore plein de chiffres de cet ordre-là. Et pour les audiences, là, moi, je ne lis pas dans le marbre de café. J'espère que les gens viendront nombreux, évidemment. J'espère qu'on touchera des nouvelles personnes. J'espère que le public, notre public fan sera toujours conquis. C'est très difficile de faire des pronostics en ce moment parce que les audiences, notamment de la télévision hertzienne, bouge beaucoup. On espère évidemment qu'on fera aussi bien, mais ça, je suis très superstitieux. Je préfère pas me prononcer là-dessus.
En tout cas, on espère au moins que vous allez dépasser les records de la saison dernière. On espère 10 millions de téléspectateurs pour vous pour cette saison. Vous avez dit lors du Festival de Sériemania, vous étiez à Amberg Creative Mine, vous avez pu échanger avec aussi les spectateurs. Vous avez dit, on ne veut pas faire la saison trop. C'est quoi la saison trop pour vous?
Bah justement, c'est une saison où, où les auteurs ne savent non plus forcément l'inspiration pour raconter une histoire forte sur Morgane au-delà des enquêtes. C'est une saison où l'envie est moins présente et où ça se ressent, ça peut se ressentir dans le programme en fait. Je pense que les personnages ont une vie propre, c'est comme les sentiments. Il y a un principe actif qui fait qu'une série existe, c'est une conviction profonde. Donc ça peut durer 10 saisons, 15 saisons, 20 saisons, 5 saisons. Ça c'est vraiment l'énergie qui se constitue entre les auteurs, les équipes créatives, les comédiens, les réalisateurs. Si on garde cette ivresse et cette frénésie entre nous, je pense que la série durera. Après, il peut arriver que les auteurs aient un manque d'inspiration, que les comédiens aient envie d'aller vers d'autres cieux. C'est des choses qui arrivent. Et nous, notre rôle, évidemment, c'est de faire en sorte que la série dure le plus longtemps possible. Et c'est important donc de maintenir cette envie chez tous les talents. Donc la saison de trop, ce serait une saison où finalement on appliquerait une recette, mais sans la sincérité et l'envie profonde qui nous anime depuis qu'on travaille sur cette série. On en est loin, je vous rassure.
Dites, les comédiens remplissent aussi de saison en saison et vous avez aussi au-delà de la série populaire qui est aussi très intelligente et je le rappelle aussi vraiment bien filmée et aussi très cinématographique parce que vous jouez sur les codes du cinéma, sur les codes par exemple des films d'animation, sur les codes aussi de la série policière, donc c'est vraiment inspirant sur ça. Et les comédiens, les équipes sont les mêmes d'année en année. Du coup, il y a une vraie famille hein, derrière. Et c'est pas pour la promo qu'on dit ça, mais il y a une vraie fidélité et ça se ressent aussi dans la réalisation.
Oui, c'est une famille. C'est vraiment une famille. Une famille à tous les niveaux. Il y a une famille d'acteurs, il y a une vraie troupe. Il y a une famille d'auteurs avec des auteurs qui, bah, évidemment Alice qui est là depuis le début, mais des auteurs qu'on retrouve, qui viennent écrire des épisodes. C'est une famille où les gens grandissent. Hein, c'est entre la saison 2 et la saison 3, Alice et Julien ont fait une intervention à la FEMIS, qui est une école de scénaristes de séries, où on apprend à écrire ce qu'on appelle des specs, donc c'est des speculative scripts sur des séries existantes. Donc ils ont animé un atelier HPI avec des binômes d'étudiants et d'étudiantes. Et on a donc Louise Collard et Léonore Baron, qui étaient étudiantes à la FEMIS et qui ont écrit deux épisodes là, sur cette saison 3. C'est une famille aussi, parce que la série elle est familiale et qu'elle raconte des histoires familiales. Mais c'est vrai qu'il y a une joie de se retrouver. On a des réalisateurs qui continuent de venir, hein, Vincent Jamin, qui avait réalisé les premiers épisodes de la saison 1, quand on a réalisé 2 sur la saison 2 et qui en réalise 3 sur cette saison. Évidemment, Mona Achache, qui avait ouvert le bal de la saison 2 et qui à nouveau réalise les deux premiers. On a beaucoup de chance d'avoir Mona à nos côtés sur cette série. C'est une réalisatrice qui a beaucoup de talent. Djibril Glissant, qui avait fait le final de la saison 2 et qui fait celui de la saison 3. Donc, on forme une joyeuse troupe et il y a une très, très belle ambiance. Hein. C'est vrai, quand on va sur le plateau, on sent un plaisir de travailler ensemble, de se retrouver. Et c'est ce qui fait aussi que le programme est fédérateur, je pense.
Dernière question, à peu près la même que les dernières. Là, on attend les résultats, parce que c'est aussi la télévision et c'est aussi les audiences, pour entamer une prochaine saison, ou alors on a déjà en tête déjà des idées pour la saison 4?
Non, on n'attend pas, on commence toujours à écrire avant la diffusion, après on attend les audiences pour activer les choses et les greenlighter entre guillemets, on n'attend pas, on a déjà des idées pour la saison 4 bien sûr, et puis le final de la saison 3 est tellement énorme qu'il faut vite penser à la suite, donc on est déjà en train de penser à la saison 4, bien sûr.
Très bien. Ben, on aura l'occasion de voir ça. Et avant la saison 4, évidemment, il y a la saison 3. Et c'est à retrouver donc le 11 mai à 21h15 sur TF1 jusque donc au 29 juin. Merci beaucoup, Pierre Laugier.
Merci, Joris. Merci. Merci à toi.
Rencontre avec Pierre Laugier, producteur de la série HPI. Dans cette émission, vous avez entendu des extraits et la bande originale de Yanis Dumoutier. Sur Radio Scarpe Sensé, on écoute la reprise de Pretty Woman par Anne Silla, un titre utilisé dans la saison 2 de HPI, à retrouver aussi tous les jeudis soirs sur TF1.
Don't walk away, that's the way it must be. Oh. sur les métiers du cinéma dans Scarp Ciné. Entrer dans le monde des tournages.
Anne Silla et sa reprise de Pretty Woman à retrouver dans la série HPI. Au cours de cette émission, j'étais avec Pierre Laugier. Vous pouvez réécouter cette interview sur radioscarpsensé.com. On quitte la télé pour retrouver les salles de cinéma. Que se passe-t-il en ce moment dans les salles obscures ? Réponse dans la rubrique à l'affiche.
Avant-première, débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma.
Le Mégarama à Arras vous propose la soirée Popcorn Reborn avec le film culte de Benoît Poulvorde. C'est arrivé près de chez vous le jeudi 11 mai à partir de 20h au Mégarama à Arras. Le prix est de 6 euros la séance. Le jeudi 11 mai à partir de 20h, c'est arrivé près de chez vous à retrouver donc au Mégarama à Arras. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour toujours plus de cinéma en région. Et d'ici là, vous le savez, allez au cinéma.
Scarp Ciné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarp Sensé, ça tourne.
Et action!